Il faut un personnel neuf, clame Eugène Morel dans la librairie publique, puisque la librairie publique qu'il appelle de ses voeux ne pourra exister que grâce... Merci. Donc grâce à un personnel nouveau, donc des bibliothécaires dotés de nouvelles compétences et qui seraient, d'après lui, d'une instruction supérieure. Donc ce qui amène à se poser la question de la formation de ces bibliothécaires et des modes de recrutement à mettre en place pour s'assurer qu'ils disposent des savoirs et des compétences nécessaires. Donc c'est dans cette optique que Eugène Morel va se faire formateur et enseignant et qu'il va mettre en place, avant la Première Guerre mondiale, un premier enseignement de la bibliothéconomie en France. Donc il s'agit des conférences qui ont eu lieu dans le cadre de la section des bibliothèques modernes fondée par Eugène Morel à l'École des hautes études sociales. Donc ces conférences ont eu lieu pendant 4 années et ont dû s'interrompre donc, entre 1910 et 1914 et ont dû s'interrompre à cause de la guerre. Donc, mais il convient d'abord de rappeler le contexte dans lequel Eugène Morel envisage cette première formation des bibliothécaires. Donc la seule formation qui existe alors pour les bibliothécaires est celle de l'École des Chartes, qui a mis en place à partir du milieu du 19e siècle une formation à la bibliographie. Sinon, pour la plupart des bibliothécaires qui ne sortent pas de l'École des Chartes, eh bien, la formation se fait sur le tas, pourrait-on dire. Donc on entre par exemple dans les grandes bibliothèques parisiennes après un stage qui peut durer plusieurs années, qui n'est pas rémunéré. Et le recrutement se fait parmi ce qu'on appelle les gens de lettres, donc des écrivains, des journalistes, des professeurs, qui n'ont pas de compétences bibliothéconomiques spécifiques et qui envisagent souvent le poste de bibliothécaire comme une sinécure. Donc on peut penser d'ailleurs que Eugène Morel lui-même, à son entrée à la Bibliothèque nationale, pensait qu'il allait pouvoir ainsi se consacrer à ses activités d'écrivain à côté de son métier de bibliothécaire. Cependant, donc malgré cette absence de formation, à la fin du XIXe siècle, on exige de plus en plus des bibliothécaires qu'ils témoignent plutôt certaines compétences, puisqu'on met en place des examens de recrutement professionnels, avec des épreuves, par exemple, de catalogage ou de bibliographie. Donc, ces examens apparaissent d'abord dans le cadre des bibliothèques universitaires, donc avec l'apparition d'un premier certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire en 1879. Puis, la Bibliothèque nationale et les grandes bibliothèques parisiennes mettent en place de tels examens. Et enfin, donc, à leur création, les bibliothèques municipales classées, donc en 1897, à leur tour, exigent un CAFB. Donc, à la fin du 19e au début du 20e siècle, pour devenir bibliothécaire dans les principales bibliothèques françaises, il faut réussir un examen professionnel. Mais comme on l'a dit, la formation reste plus ou moins inexistante, du moins en dehors de l'École des Chartes. Et donc, les candidats doivent se former en visitant des bibliothèques ou en lisant les premiers manuels de bibliothéconomie qui commencent à paraître. Donc... Eugène Morel, comme ses contemporains, est conscient de la nécessité d'une formation et c'est dans ce cadre qu'il va réfléchir à la formation qu'on pourrait mettre en place pour les bibliothécaires. Donc, dans ses ouvrages « Bibliothèque et la librairie publique », il commence d'abord par violemment critiquer la formation qui est donnée à l'École des Chartes. Donc, il dénonce ce monopole qu'auraient établi les chartistes sur les bibliothèques. Et il critique cette formation qui est trop centrée sur la paléographie, sur l'histoire médiévale, et qui ne prépare pas au métier de bibliothécaire. Donc ces attaques sont d'abord portées dans Bibliothèque, où il oppose, comme l'a dit Agnès, chartistes et gens de lettres, en regrettant finalement la disparition des seconds dans le cadre des bibliothèques. Il reprend ses attaques dans la librairie publique, où il insiste sur la nécessité d'élargir le recrutement des bibliothécaires, au-delà des deux spécialités qui sont majoritairement représentées parmi les bibliothécaires à l'époque, qui sont la littérature et l'histoire. Et c'est donc dans la librairie publique qu'il va expliquer quel est son projet personnel, puisque la parution de cet ouvrage en 1910 coïncide avec les débuts des conférences organisées dans le cadre de la section des bibliothèques modernes à l'École des hautes études sociales. Donc dans la librairie publique, Morel relate comment il avait d'abord envisagé, en avril 1910, de créer une ligue pour la librairie publique en France. Et puis finalement, il a décidé d'agir, avant d'essayer de solliciter des concours à droite et à gauche. Donc il explique, il a semblé qu'un premier résultat serait atteint si justement on pouvait agir un peu sur l'enseignement et le recrutement des bibliothécaires actuels. Donc finalement, former des bibliothécaires, c'est un premier moyen d'action pour ensuite persuader tout le monde de la nécessité des bibliothèques et arriver finalement à cette librairie publique qui est son objectif final. Donc toujours dans la librairie publique, Morel expose quel est le programme des conférences qui seront données à cette section des bibliothèques modernes. Donc ce programme a été établi en juin 1910 et se compose de trois parties. Donc la première partie s'intitule « Connaissance du livre ». Il s'agit d'un panorama de la production, de l'édition et du commerce du livre depuis 1750. Donc finalement, Morel semble laisser de côté la question du livre ancien autour duquel est centré l'enseignement de l'école des Chartes. Donc cette partie comprendra aussi des interventions sur le dépôt légal, par exemple, donc autre sujet auquel Morel s'est beaucoup intéressé. La deuxième partie du programme s'intitulera « Classement et recherche bibliographie ». Donc il y sera question des bibliographies, du catalogage, mais aussi de documentation. Donc le terme apparaît clairement dans le programme exposé par Morel. Donc il fait une large place à cette science nouvelle. Et on verra que Paul Hautelet et Henri Lafontaine seront parmi les intervenants des conférences des bibliothèques modernes. Donc la troisième partie du programme s'intitule « Les bibliothèques », donc ce qui est un peu plus vague. Donc il y aura tout d'abord une présentation de bibliothèques en France et à l'étranger, avec une large part réservée bien sûr aux librairies publiques anglo-saxonnes que Morel admire tant. Et toujours dans cette troisième partie, il sera aussi question des différentes compétences que doit posséder un bibliothécaire. Donc beaucoup d'interventions autour de la profession de bibliothécaire. Donc par exemple, il sera question de construction et d'aménagement intérieur des bibliothèques, d'administration, de registre, mais aussi des examens professionnels, de la carrière et du rôle social des bibliothécaires. Donc on voit ici que Morel témoigne de ces nouvelles préoccupations qui sont celles de la profession à son époque. Donc les conférences, nous dit Morel, s'adressent à un public diversifié. Donc il explique toujours dans la librairie publique, nous ne prétendons pas avec cela former des bibliothécaires. Nous ne voyons dans cette première année, donc sous-entendu cette première année de conférence, qu'un essai et surtout une propagande. Donc il s'agit finalement de toucher un public plus large que celui des bibliothécaires. Et il explique qu'il espère atteindre aussi des étudiants qui ont besoin de se former à la bibliographie. Et plus généralement, le grand public, car c'est uniquement s'il réussit à convaincre le grand public de la nécessité, de l'utilité des bibliothèques, qu'on pourra ainsi faire pression sur les tutelles et obtenir les financements et les moyens dont les bibliothèques manquent cruellement en France. Cependant, lorsqu'on lit l'avertissement que Jeanne Morel a rédigé pour le premier volume de ses conférences qui a été publié en 1912, on constate que le projet de formation professionnelle des bibliothécaires reste central en réalité. Et donc il explique que les conférences ont eu comme premier effet positif vraiment de permettre aux bibliothécaires de se rencontrer et de débattre. Et il écrit « La création d'un enseignement véritable, aussi bien que l'élargissement des examens et diplômes exigés actuellement, s'impose, et nous avons fait ici les premiers pas. » Donc le bilan de la première année de conférence est vraiment, reste quand même centré autour d'une volonté de formation professionnelle des bibliothécaires. Mais dans la librairie publique, Eugène Morel voit au-delà finalement de ces seules conférences qui sont seulement un début. Il imagine qu'on pourrait mettre en place une formation sur 3 ans qui serait sanctionnée par un brevet final de bibliothécaire. Mais ce brevet ne serait accordé qu'après avoir donc d'une part assisté aux conférences, après avoir acquis une expérience pratique lors de stages. Donc Eugène Morel insiste beaucoup sur ce point et il faudra en particulier faire des stages à l'étranger. Il faudrait avoir rédigé un mémoire et enfin réussir un examen donc qui porterait sur diverses questions techniques, des questions vraiment concrètes et pratiques. Donc cette formation finalement permettrait aux futurs bibliothécaires d'acquérir toutes les compétences nécessaires et le recrutement du coup s'en trouverait facilité puisqu'on saurait que ces bibliothécaires ont été bien formés et Eugène Morel envisage qu'il pourrait en plus être recommandé par l'ABF sur certains postes. Donc finalement, tout ce qui a trouvé une réalisation pratique, c'est uniquement les conférences. Malgré tout, Eugène Morel souligne qu'il y a eu un début de mise en place d'exercices pratiques dans le cadre de cette formation. Donc il explique que lors de la première année de conférences sur les bibliothèques modernes, donc une municipalité, celle de Levallois-Perret, s'est adressée aux élèves de la section des bibliothèques modernes pour la réfection de son catalogue. Donc c'est bien sûr le fameux catalogue de Levallois-Perret dont on nous a déjà parlé, qui est paru en 1913 et qui est la première application en France de la classification décimale. Et justement, lors de la première année des conférences sur les bibliothèques modernes, il y a eu deux conférences qui visaient à présenter cette classification décimale. Donc on voit bien qu'il y a un lien entre l'enseignement et sa mise en application concrète. Donc ces conférences ont eu lieu sur 4 années consécutives, de novembre à mars. Donc elles ont commencé en 1910, se sont terminées en 1914. Une 5e série de conférences avait été prévue pour l'année 1914-1915, mais n'a pas eu lieu donc, du fait du début de la Première Guerre mondiale. Et apparemment, Morel a essayé de reconduire ce programme de conférences sur l'année 1915-1916, mais n'a pas réussi à poursuivre son enseignement. Donc finalement, c'est vraiment la guerre qui a mis un coup d'arrêt à ce premier enseignement de la bibliothéconomie en France. Donc ces conférences ont parfois été très richement illustrées, donc, comme Morel l'explique lui-même. Donc il écrit par exemple dans le premier volume de conférences publiées, « Monsieur de Gast a fait une conférence sur les procédés nouveaux de l'imprimerie qui a été accompagnée de projections et d'une véritable petite exposition de documents organisés dans les salles de l'école. En outre, Monsieur Bachet, directeur de l'illustration, a bien voulu permettre une visite complète des ateliers du journal » que M. de Gast a conduite en expliquant les moindres détails. Nous devons remercier tout particulièrement Messieurs Bachet et de Gast pour cette illustration de la bibliographie qui a attiré tant de monde. Donc on voit qu'il ne s'agissait pas de conférences, uniquement de conférences statiques sous la forme de cours magistrales. Et on sait par exemple qu'en janvier 1913, Morel lui-même a donné une conférence sur le bibliophote, donc ce fameux appareil qui permettait d'agrandir une image par projection et de la copier. Donc on peut imaginer qu'il a fait une démonstration pratique, puisqu'on sait qu'il en a fait une par ailleurs devant ses collègues de l'ABF en 1912. Donc ces conférences sur les bibliothèques modernes ont été patronnées et largement soutenues par la toute jeune Association des bibliothécaires français, donc fondée en 1906. Donc le bulletin de l'ABF en particulier a relayé le programme des conférences, en a donné des résumés. Donc c'est grâce au bulletin de l'ABF qu'on arrive à suivre finalement le déroulement de ces conférences sur 4 ans. Et l'ABF a aussi fait publier une partie des conférences donc, sur les 3 premières années. Donc ce sont les 3 volumes de Bibliothèque, Livres et Librairies qui nous permettent d'en savoir un peu plus sur le contenu des conférences, même si toutes n'ont pas été publiées. Donc l'ABF a de plus fait distribuer gratuitement ses volumes à ses membres. Donc on sent vraiment de la part de l'ABF une volonté de relayer cet enseignement d'Eugène Morel dans la profession, ou du moins dans cette partie de la profession qui était, comme Eugène Morel, progressiste et qui voulait moderniser les bibliothèques. Donc lorsqu'on regarde ces conférenciers qui ont été invités par Eugène Morel dans le cadre de cette section des bibliothèques modernes, il n'est pas étonnant de retrouver de nombreux membres de l'ABF. Donc sur les 4 années de conférences effectives et la 5e année qui n'a pas pu avoir lieu, on compte 58 intervenants. Et sur ces 58, 30 figurent dans la liste des membres de l'ABF publiée dans le bulletin de l'ABF en 1913. Et donc parmi ces membres de l'ABF, on retrouve des membres fondateurs. Donc on peut citer les noms de Jules Laude, Henri Lemaître, Henri Michel, Charles Oursel, Charles Sustrac ou encore Joseph Dinicker, qui a été le premier président de l'ABF. Donc parmi les intervenants invités par Eugène Morel, on trouve aussi un certain nombre de chartistes. Malgré tout le mal que Eugène Morel a pu dire des chartistes, ils sont malgré tout pour beaucoup certains de ses plus fervents soutiens. Donc c'est le cas par exemple d'Henri Martin qui est à l'époque président de l'ABF et qui ouvre finalement cette série de conférences puisque c'est lui qui intervient lors de la première conférence. Donc il donne une conférence sur les bibliothèques et le public où il rappelle les grandes problématiques qui s'ouvrent aux bibliothécaires de son temps et qui ont conduit d'après lui à la fondation de l'ABF. Donc, parmi ces conférenciers, beaucoup ont un profil relativement classique, c'est-à-dire que si on s'intéresse aux travaux de recherche qu'ils ont pu faire en dehors de leur métier de bibliothécaire, on constate que pour beaucoup, il s'agit de travaux de recherche historique. Donc, c'est le cas évidemment des conférenciers qui sortent de l'école des Chartes, qui ont parfois fait des recherches en histoire médiévale, comme Alexandre Vidier ou Henri Lemaître. D'autres ont été un peu plus originaux dans le sens où, par exemple, Paul Cornu s'est intéressé à l'histoire du costume, ce qui est un peu nouveau. Et Camille Bloch, quant à lui, a travaillé sur le XVIIIe siècle, mais dans la notice nécrologique qui est parue dans la revue Bibliothèque de l'École des Chartes, c'est souligné vraiment comme une originalité. pour les anciens élèves de l'école, qu'on se soit intéressé à promouvoir l'histoire moderne. Donc, d'autres conférenciers ont un profil un peu plus original. Donc, on peut évoquer le cas de Noé Legrand, qui est bibliothécaire à la faculté de médecine, qui est quelqu'un qui a eu une formation artistique et qui, finalement, va mettre à profit ses talents artistiques dans le cadre de la bibliothèque de la faculté de médecine. Donc, par exemple, il avait commencé à constituer une collection d'iconographie médicale, donc au moment où il est tué sur le champ de bataille en 1915. On peut aussi revenir sur le cas de Joseph Deniker, qui est un naturaliste et anthropologue, qui est membre de la Société de géographie, qui est bibliothécaire au Muséum d'histoire naturelle, et qui finalement a un profil un peu atypique par rapport à d'autres bibliothécaires. D'ailleurs, dans la nécrologie que lui consacre le bulletin de l'ABF, Paul Marais n'évoque pas ses travaux scientifiques et se contente de dire que la capacité nous manque pour apprécier convenablement les travaux scientifiques de notre regretté collègue. Donc on sent qu'il y a quand même une certaine distance. Donc cependant, tous les conférenciers invités par Eugène Morel ne sont pas des bibliothécaires, même si certains sont proches du monde des bibliothèques. Donc c'est le cas tout d'abord d'Henri Lafontaine et de Paul Hautelet, qui sont finalement plutôt les pères d'un nouveau métier, celui de la documentation. Et leur présence témoigne du soutien qu'a apporté l'Institut international de bibliographie, donc aux conférences sur les bibliothèques modernes. Donc une autre institution a soutenu ces conférences, il s'agit du Cercle de la librairie. Et plusieurs éditeurs, de fait, sont intervenus devant les élèves de la section des bibliothèques modernes. Donc seuls deux de leurs conférences ont été publiées. Il s'agit d'abord de la conférence d'Henri Bourrelier, qui était directeur de la librairie Armand Collin, et qui est venu parler du renouveau des livres scolaires, et du fait que les livres scolaires sont désormais attrayants et favorisent l'apprentissage. Donc finalement, on sent une perspective assez proche de celle d'Eugène Morel, qui veut lui aussi rendre les bibliothèques avenantes et attirer les publics, notamment les enfants, à la fréquentation des livres. Donc le deuxième éditeur invité est Alfred Imblot, qui est directeur de la librairie Ollendorf. Donc peut-être que Eugène Morel le connaissait, car apparemment certains de ses romans ont été publiés chez Ollendorf. Donc Alfred Imblot est surtout resté célèbre pour être l'un des éditeurs qui ont refusé le manuscrit du côté de chez Swann. Mais, donc il vient faire un panorama assez romantique des relations entre littérature et édition au XIXe siècle. Enfin, nous avons d'autres conférenciers qui ne sont pas des bibliothécaires, nous avons quelques archivistes, donc là on reste quand même dans un milieu assez proche, un professeur, et puis je voudrais m'attarder sur deux conférenciers qui ont un profil assez différent. Donc l'un d'eux, Paul Théodore Vibert, est un journaliste spécialisé dans le domaine de l'économie. Donc il est présenté dans le volume des bibliothèques, livres et librairies de 1912 comme conseiller du commerce extérieur, et il vient parler des bibliothèques commerciales, donc un type de bibliothèque spécialisée. Donc on peut penser que Eugène Morel l'a invité, car Paul Théodore Vibert a rédigé un ouvrage qui s'appelle « La colonisation pratique et comparée », qui date de 1904, et à l'époque, bibliothèques commerciales vont de pair avec bibliothèques coloniales, on ne peut pas distinguer les deux. Mais de toute façon, il n'est guère étonnant que des journalistes aient participé à ces conférences, comme l'explique Eugène Morel. Et parmi les étudiants, outre ceux qui ont à préparer un mémoire ou une thèse, il y a les étudiants de l'école de journalisme, dans l'école même où ont lieu ces conférences, donc l'école des hautes études sociales. L'art de trouver rapidement et sûrement des renseignements sur tout sujet est la base même du métier qu'ils apprennent. Donc, dernier conférencier un peu atypique, il s'agit d'Auguste Rondel, qui est relativement connu. Donc, il est présenté comme collectionneur à Marseille. Donc, rappelons que ce banquier a rassemblé au cours de sa vie une documentation très riche autour du théâtre, qui était sa passion, et que cette collection a constitué l'origine du département des arts du spectacle à la Bibliothèque nationale, après le don qu'il en a fait en 1920. Donc au début de sa conférence, Auguste Rondel explique qu'il n'a aucune formation bibliothéconomique, il revendique le titre d'amateur, écrit même qu'il n'a jamais fréquenté aucune bibliothèque, sinon pour y saluer des gens. Et cependant, on constate qu'il est vraiment un spécialiste en la matière quand il présente à son auditoire des bibliographies d'art dramatique, des bibliothèques et des collections spécialisées. Et il donne enfin des préconisations en vue d'une classification de ce type de collection. Donc lui-même a classé et catalogué sa propre collection. Donc c'est vraiment le spécialiste en la matière, même s'il est un peu à part par rapport au monde des bibliothécaires. Il est tout de même membre de l'ABF. J'ai trouvé son nom dans la liste publiée dans le bulletin en 1913. Donc il est plus difficile en revanche de se faire une idée du public de ces conférences. Donc il semble qu'elles ont rencontré un certain succès, si l'on en croit les comptes rendus dans le bulletin de l'ABF. Mais il semblerait que finalement le public qui assistait à ces conférences était surtout constitué de bibliothécaires. Il est difficile en tout cas de retrouver des mentions d'éventuels étudiants, mis à part les élèves qui auraient participé donc, à la réfection du catalogue de la bibliothèque de Levallois-Perret. Et donc on ne sait pas si Eugène Morel a vraiment réussi à toucher le grand public comme il le souhaitait. Mais était-ce vraiment son ambition, puisque finalement tout cela reste très centré sur des questions de formation des bibliothécaires au final. Donc on peut se demander ensuite, au vu du programme des conférences, si Eugène Morel finalement remplit le programme qu'il avait exposé dans la librairie publique. Est-ce qu'il traite vraiment tous les sujets qu'il avait évoqués ? Donc pour ce qui est du premier volet de ce programme, autour de la connaissance du livre, effectivement, il a été largement traité, même si les conférences qu'il concerne ont été rarement publiées, en dehors des deux conférences d'éditeurs dont je vous ai déjà parlé. Mais de nombreuses interventions d'éditeurs et d'imprimeurs ont eu lieu. On a aussi eu des conférences sur le dépôt légal, sur la presse et le livre. L'une d'elles s'intitule « Librairie et publicité », donc peut-être s'agissait-il déjà de communication. Et on note une inflexion qui aurait dû avoir lieu avec le programme de la cinquième série de conférences, donc celle qui n'a pas pu avoir lieu à cause de la guerre, mais dont on connaît le programme qui avait été prévu. Donc apparemment, ce programme devait porter sur l'histoire du livre. Et de fait, on trouve deux conférences qui traitaient de manuscrits médiévaux. Une s'intéressait à un imprimeur du XVe siècle et une dernière à la bibliophilie. Donc peut-être que cette fois, Eugène Morel essayait enfin de chasser plus ou moins sur les terres des chartistes. Donc le deuxième volet du programme de cours prévu par Eugène Morel portait sur les classements et la bibliographie. Donc avec, dès la première série de conférences, comme je vous l'ai dit, deux invités de marque, Paul Autelet et Henri Lafontaine. Donc l'ABF avait noué des liens avec ces deux personnages relativement tôt dans son existence, mais je pense que Jérôme nous en parlera plus en détail. Donc Henri Lafontaine vient présenter l'histoire de l'Institut international de bibliographie et ainsi que le travail déjà accompli. Et il entrevoit déjà une future ère mondialisée de la bibliographie. Et Paul Autelet, quant à lui, en arrive plus ou moins à envisager une sorte de dématérialisation du livre, puisque pour lui, le livre prendra la forme à l'avenir plutôt d'un dossier documentaire finalement. Qu'on remettra à jour constamment. Et il imagine que cela pourrait prendre la forme de fiches octogonales qui seraient suspendues par le milieu et qui auraient toutes sortes de languettes sur les côtés pour avoir des entrées diverses et variées. Voilà, donc on n'est pas encore tout à fait au livre dématérialisé, mais pas loin. En tout cas, donc, ces deux interventions qui sont très visionnaires nous placent finalement à la fois dans les débuts de la documentation, donc qui se développe à partir des années 1880, et aussi dans le contexte de cette première mondialisation qu'a connue l'Europe avant la Première Guerre mondiale, puisqu'il est vraiment envisagé de créer un réseau international de bibliographie. Donc à côté de ces propos visionnaires, nous avons d'autres communications qui portent sur les catalogues, et elles sont souvent le fait de Charles Sustrac, dont Marie nous a déjà parlé, qui est bibliothécaire à la Bibliothèque Sainte-Geneviève et qui s'est beaucoup intéressé aux questions de catalogage. Donc sa première intervention en 1910 s'intitule « Comment se servir des bibliothèques ?» et c'est vraiment un mode d'emploi très pratique de bibliographie et de bibliothèque parisienne avec des informations détaillées. Il donne par exemple les horaires d'ouverture des bibliothèques en question. Puis il récidive avec « L'uniformisation des règles catalographiques »,« Contribution à un essai de théorie catalographique » et « Le catalogue alphabétique de matière ». Donc on voit que le catalogue alphabétique de matière, en faveur duquel milite aussi Eugène Morel d'ailleurs, puisque d'après lui, c'est ce catalogue-là qui permettra à un lecteur de trouver les renseignements qu'il cherche sur un sujet donné. Donc il ne faut pas oublier que Charles Sustrac a joué vraiment un rôle fondamental au sein de l'ABF en faveur du développement de la documentation et des catalogues. Donc il a été secrétaire du Bureau bibliographique de Paris, qui est plus ou moins la filiale française de l'Institut international de bibliographie. Et finalement, ces interventions reflètent ces publications dans le bulletin de l'ABF et les débats qui agitaient l'ABF à l'époque. Par exemple, en 1909, Charles Sustrac a présenté à ses collègues de l'ABF une intervention sur les catalogues sur fiches imprimées. Et il y a eu ensuite des débats auxquels ont participé d'autres intervenants des conférences de Eugène Morel, donc par exemple Noé Legrand, donc pour s'interroger sur la pertinence de la mise en place d'un tel catalogue. Donc d'autres conférences qui portent sur des collections spécifiques sont l'occasion de, à nouveau, d'évoquer des questions de classification. Par exemple, Paul Cornu, qui présente les bibliothèques d'art de Paris et qui est le bibliothécaire de la bibliothèque de l'Union centrale des arts décoratifs. Donc Paul Cornu évoque le travail d'un mécène de cette bibliothèque, Jules Massiet, qui a constitué une très riche collection iconographique et qui en a élaboré une classification. Et donc cette collection iconographique s'adresse à des praticiens de l'art, à des artistes, à des artisans, qui ont besoin de trouver des images directement, et non pas des ouvrages. Donc Paul Cornu distingue vraiment ces deux publics spécifiques, d'une part les artistes et artisans, d'autre part les gens qui écrivent sur l'art, donc des écrivains, des journalistes par exemple, qui eux peuvent se satisfaire de volumes qu'ils trouveront dans des fonds généralistes ou des bibliothèques. Donc il insiste sur la nécessité de deux bibliothèques et de deux types de collections pour des publics spécifiques. Donc pour ce qui est du troisième volet envisagé par Eugène Morel dans son programme de cours, les bibliothèques, donc c'est peut-être celui qui a été le plus développé, avec de nombreuses présentations de bibliothèques en France et à l'étranger. Donc Eugène Morel, par exemple, en 1911, donne une conférence sur la librairie publique en Angleterre et aux États-Unis, où il reprend évidemment beaucoup d'éléments déjà développés dans bibliothèques et dans la librairie publique. Et l'année suivante, donc, il fait part de son expérience à la Bibliothèque royale de Berlin. Et à chaque fois, ces deux conférences sont l'occasion pour lui d'appeler de ses voeux l'avènement des librairies publiques en France et de rappeler qu'il devrait y avoir des bibliothèques ayant deux rôles spécifiques, bibliothèque de conservation, bibliothèque de lecture publique. Donc au cours des conférences sont aussi présentées la bibliothèque du Congrès, la bibliothèque de New York, la bibliothèque du British Museum, qui apparaît vraiment comme un modèle à suivre, qui est peut-être celle qui est la plus mise en valeur parmi toutes les bibliothèques présentées. Donc pour ce qui est de la France, les grandes bibliothèques parisiennes ont droit à plusieurs conférences. Les bibliothèques municipales sont un peu moins bien traitées. Donc Henri Michel, qui est le conservateur de la bibliothèque municipale d'Amiens, insiste sur leur caractère historique et provincial, mais en même temps insiste aussi sur la nécessité d'avoir un même souci des livres anciens et des livres nouveaux. Et pour ce qui est des bibliothèques universitaires, ce sont vraiment les grandes oubliées, là encore, puisqu'elles n'ont droit qu'à une conférence qui est donnée par Jules Laude. Donc Jules Laude est le bibliothécaire qui est responsable de la situation originale de la bibliothèque de Clermont-Ferrand aujourd'hui, donc bibliothèque à la fois municipale et universitaire. Et donc il dépeint un tableau de la situation lamentable des bibliothèques universitaires françaises qui ne souffrent guère la comparaison avec les bibliothèques universitaires allemandes que Jules Laude connaît bien puisque par ailleurs il les a visitées et a rédigé un rapport sur ces visites qu'il en a faites. Donc plusieurs conférences concernent aussi les bibliothèques spécialisées, donc on parle à l'époque de bibliothèques spéciales, donc qui sont très nombreuses. Donc bibliothèques scientifiques, de droit et de sciences sociales, commerciales, d'art, musicales, médicales. Donc ce sont des bibliothèques qui s'adressent à un public de professionnels, donc ce public finalement de commerçants ou d'industriels qui est un peu méprisé ou délaissé par les bibliothèques à cette époque. Et Paul-Théodore Vibert, donc ce journaliste qui présente les bibliothèques commerciales, insiste sur le fait qu'on devrait trouver dans nos telles bibliothèques des documents pratiques, annuaires, bottins, livrets de chemin de fer, dans le but d'établir des itinéraires ou de chiffrer des coûts de transport, par exemple. Enfin, donc, dans ce troisième volet sur les bibliothèques, Eugène Morel développe finalement beaucoup moins les aspects pratiques du métier de bibliothécaire. Alors peut-être laisse-t-il tous les combats à mener sur les statuts des bibliothécaires à l'ABF, puisque c'est finalement, ça fera l'objet de la plupart de ses combats dans ses premières années d'existence. Il évoque toutefois la question des bâtiments. Donc Henri Lemaître donne une conférence sur l'éclairage et le chauffage dans les bibliothèques. Donc il faut éclairer à l'électricité et préférer le chauffage central par vapeur à basse tension ou calorifère à charbon. Voilà, donc c'est là qu'on sent la distance par rapport à notre époque. Et une étonnante conférence est donnée par un bibliothécaire de la Bibliothèque nationale qui s'appelle Xavier Pelletier, qui vient parler de l'hygiène dans les bibliothèques et qui détaille tous les dangers qui menacent la santé des bibliothécaires dans les bibliothèques, donc la poussière, les températures mal régulées, et notamment aussi la tuberculose, qui se transmettrait très facilement dans les bibliothèques, du fait par exemple de la présence de crachoirs à sciure qui sont disposés dans les bibliothèques. Voilà, donc il montre vraiment la bibliothèque comme un nid de microbes qu'il faudrait désinfecter. Pour finir, donc cet enseignement dans le cadre de la section des bibliothèques modernes, donc entre 1910 et 1914, a été un premier enseignement de la bibliothéconomie en France. Donc, il n'est pas resté sans suite, puisqu'en 1923 a été fondée l'école franco-américaine. Donc, Eugène Morel y a enseigné jusqu'en 1926, et l'école a fermé en 1929. Donc, il n'y a pas eu réellement d'enseignement institutionnalisé destiné aux bibliothécaires jusqu'à la fondation de l'ENSB en 1963. Donc, cependant, ce retour en arrière jusqu'à cette époque de la section des bibliothèques modernes nous a permis de mieux considérer le rôle déterminant qu'a eu Eugène Morel en tant que formateur et enseignant, puisqu'il a marqué tout de même les bibliothécaires qui ont assisté à ses conférences. Et le programme d'études qu'il a mis en place pour ses conférences, finalement, reste toujours d'actualité, donc en donnant par exemple une large place à l'acquisition d'une expérience pratique par des stages, ainsi que par ses conférences qui ont surtout permis aux professionnels de se rencontrer et de débattre des problématiques du moment dans la profession. Donc, comme on l'a dit, une grande distance nous sépare de cette époque où les catalogues sur fiches étaient à la pointe de l'innovation technique. Mais cependant, les grandes problématiques restent les mêmes, puisque les bibliothécaires d'aujourd'hui doivent faire face aussi à une mondialisation de la documentation, à l'évolution rapide des documents et des supports, au nombre sans cesse croissant de ces documents. Donc de nouveaux défis d'indexation et de catalogage se posent à nous à l'heure d'Internet, et nous devons toujours nous adapter à un public qui est peut-être de plus en plus protéiforme.